Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort, le podcast du jardin.
Allez, c'est parti pour une nouvelle heure de podcast. On s'aime fort. Merci à toutes et à tous de nous suivre. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Et nous sommes mi-mars. Ça s'excite tout doucement dans le potager et dans le jardin en général. Sauf si c'est affreusement mouillé et gorgé d'eau, puisqu'il y a eu quelques pluies quand même ici ou là. Et il y a certaines régions, notamment dans le sud, hein, encore une fois, on ne le dira jamais assez, qui malheureusement ont été vraiment submergées. Lui, il est submergé de jardinage. Ça veut rien dire, mais c'est ma formule d'aujourd'hui. Bonjour Eric.
Salut Brice.
Tout roule?
Ouais, ça va. Je suis submergé de jardin, mais pas chez moi. Donc, c'est ça qui est terrible. Mais
tu fais chez les autres. Ouais, tu tailles beaucoup.
Ouais, là, je fais des formations de taille pour les employés communaux. Donc, c'est super. On passe d'excellents moyens. Moment, je voulais dire.
Avec qui fait perdre tes moyens, du coup.
Ouais, ça fait... Ouais, c'est super. On est des fois à la pluie et des fois au soleil, et souvent à la pluie, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est des très, très bons moments d'échange, de passion du sécateur et de la scie arboricole. C'est super, voilà.
En fait, tu es un passionné du sécateur et de la cisaille.
Oui, c'est ça, tout à fait. Mais
enfin, de la cisaille.
Mais le téléphone pleure quand même.
Mais le téléphone pleure quand même. Bien, n'importe quoi. De quoi on va parler aujourd'hui?
On va commencer, il y a un petit peu de tempo quand même, hein. Il y a quand même des choses à faire et maintenant c'est parti d'une manière complètement surnaturelle jusqu'à début octobre, pour faire simple. Voilà, et puis après, on va, bien sûr, il y a des questions-réponses, il y aura même, d'après ce que j'ai compris, il y aura des arbres fruitiers en pot et dans le terrain.
Tout à
et
fait.
Et puis à la fin, comme les auditeurs et les auditrices nous ont demandé un petit peu des infos par rapport à certains auxiliaires, j'en ai trouvé un qui s'appelle le cloporte.
Et bien justement, aujourd'hui, à quoi sert le cloporte?
Ouais.
Et bien c'est le sujet de la semaine, parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert en fait? Parce que, alors c'est une espèce, certains sont complètement dégoûtés par l'idée de voir ces cloportes-là. Ça dépade, ça a l'air mignon, mais c'est quand même une carapace. On ne sait pas trop dans quelle catégorie le mettre.
Ouais.
C'est des crustacés, c'est des insectes, on ne sait pas à quoi ça sert. Je crois qu'il va être question de compost, notamment, Eric.
Oui, bien sûr.
Et puis on verra que le cloporte est notre ami pour la vie. C'est comme les produits laitiers, mais en beaucoup mieux.
Et le cloporte pour la vie rime avec Alexandrie.
Alexandra.
Tout
à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, restons au courant de l'actu jardin. C'est tout de suite le tempo. Tu as vu la transition, quand même?
Ah, c'est beau. Hein,
courant,
c'est beau.
Alexandra, avec François, voilà. Pour les vannes, on repassera. Le tempo au jardin, c'est parti. Eric, on est en lune descendante, donc je...
Là, on est au potager, on plante. Hein, donc, aïe, oignon, échalope. Hein, c'est un peu comme... C'est une nouvelle aïe qui n'est pas facile. Mais comme dit, on est un petit peu sur les mêmes plantations que la semaine dernière. Ça, là-dessus, on ne change pas beaucoup. Mais il faut savoir que dans ce cadre-là, ça, c'est nul, ta remarque, parce que maintenant, j'ai du mal à me reprendre, mais ça va venir.
Non, pas de problème.
Ah, c'est bon. Et donc, là, par rapport à ça, on est plutôt sur des gros, gros trucs à planter. c'est-à-dire que... On va pouvoir aussi planter tous les petits fruits, même s'ils sont en feuilles cette année, parce que vous êtes dans les jardineries. Donc là, ils sont vraiment... Waouh, il y en a qui sont déjà à l'impression qu'il va bientôt y avoir les fruits les fleurs, au moins déjà dans un premier temps.
Attends, je te coupe, mais ça veut dire que c'est trop tard ou on peut encore y aller?
Non, pas du tout.
Oui, on peut y aller.
Par contre, ce qu'il faut absolument faire, et bon, ça va être un peu fou ce que je vais dire techniquement, c'est qu'il faut faire un énorme trou, c'est-à-dire au moins un fer de bêche pour les groseilles, par exemple, pour les framboises, parce que souvent, c'est du 10 par 10 ou du 11 par 11, hein, les godets. Mais il faut faire un énorme trou, bien remplir de terreau en mélange avec de la terre. Alors, je ne dis pas du terreau pur, hein, mélange avec de la terre. Il faut arroser. C'est fou à dire, alors qu'on a plein de flottes. Donc, profitez-en pour vider un petit peu les cuves, parce qu'à mon avis, il va encore pleuvoir. Donc, vous commencez un petit peu à nouveau à vider les cuves pour remplir vos plantations de fraisiers, de groseilliers, de framboisiers. Parce que si vous faites un trou, je veux dire, c'est quand même quand il fait chaud. Maintenant, on a 17 degrés, 17-18 degrés Grand Est. Il faut savoir qu'il fait beaucoup plus chaud dans le sud. Donc, ça peut vite sécher. Donc, il faut bien arroser le pied.
Et on va le rappeler, on ne paille pas. Désolé pour ce bruit de mécanique, mais c'est un élément dans le bureau là qui s'excite tout seul.
Ah bah dis donc. Bonjour à lui.
Donc, on a un compteur au bureau avec les fans Facebook, voilà. Et puis dès qu'il y en a un qui aime notre page, ouais, ça s'affiche. Voilà, 11 843 fans, ouais, pour être précis. Rejoignez-nous, vous qui nous écoutez. Non, blague à part, je reviens juste sur un point. Et on ne paille pas ce qu'on vient de planter.
Alors si, pour les petits fruits, oui.
Oui, mais pas pour les arbustes.
Pas les arbustes, c'est les arbres. Voilà. Alors, tout ce qui est arbustes et arbres fruitiers, ça ne faut surtout pas. Et là, j'ai encore eu des informations de gens qui étaient en plus d'accord avec moi, donc ça tombe bien. Donc tout le monde a bien remarqué que si on ne paille pas, on ne fait pas crever la plante, mais surtout on le facilite l'entrée des racines dans le sol, mais dans le sens très vertical.
Bien, donc ça veut dire qu'on ne paille pas pour éviter encore une fois que les racines restent superficielles, parce que l'objectif c'est que ça aille chercher l'eau. Par contre, framboisier, mûrier, cassis, les petits fruits, ça, et les fraises bien sûr, ça on paille tout de suite.
Hein, oui, on paille tout de suite parce que dans leur environnement c'est déjà paillé. Et donc, eux, ils ont plutôt des racines dites superficielles. Ils n'ont pas cette fameuse racine pivotante. Mais ne pas oublier aussi, c'est que même si vous paillez vos arbres fruitiers parce que vous ne voulez pas faire autrement, il faut arroser. Donc, c'est ça le truc. Et vous allez arroser pendant quelques mois parce que si vous avez planté des arbres aux racines nues, vous n'avez pas le choix, d'arroser souvent. Hein, j'en discutais encore avec... un ami hier chez qui j'ai taillé, parce que j'ai aussi des amis chez qui je vais tailler.
Que tu tailles.
Voilà. Et ils n'ont pas arrêté d'arroser pendant tout l'été les nouvelles plantations. Et on a vu bien la différence. C'est impressionnant, quoi.
D'où l'intérêt aussi de récupérer l'eau de pluie.
Complètement.
Sans mauvais jeu de mots et sans rime hasardeuse. Ouais. Pour pouvoir assurer aussi, parce qu'on ne va jamais le répéter, le jardin c'est de la flotte.
Bah oui.
Derrière, il en faut, on a beau pailler et faire tout ce qu'on veut.
Au final... au bout d'un moment, quand on est sur des moments trop de secs, les racines ne vont pas pousser du jour au lendemain comme ça, à une profondeur au-delà de la croûte de sécheresse qui fait des fois 30 cm.
Hein. C'est ça, on est d'accord. Eric, continue à faire germer les plants pommes de terre ?
Oui, complètement, on les achète. Hein. Il commence même à y avoir des petites promotions. Donc, faut en profiter.
Ça veut dire que ça germe dans les magasins en général quand c'est en promo. Hein.
Ouais, c'est que. Ouais. Bon, voilà, c'est.
Ouais.
Voilà. j'en discutais aussi hier, parce qu'en ce moment, ça discute, ça papote beaucoup. Allez, des fois, dans des variétés dites traditionnelles. Hein. Franchement, il y en a qui me disaient, voilà, on change un peu de variété, on est un petit peu déçu. En fin de compte, on va revenir chez les Larates, des variétés un peu traditionnelles qui ont fait leur preuve depuis des dizaines et des dizaines d'années chez les anciens et les nouveaux jardiniers. Donc voilà, ne soyez pas surpris des fois qu'il ne reste plus que les variétés que vous connaissez. Ben, c'est pas grave, hein, celles-ci sont quand même très très bonnes et je dirais même que c'est pas la nouveauté qui fait la bonne qualité gustative. Prenez l'exemple par exemple des... Moi j'étais très déçu sur des pommes de terre noires, enfin qui sont plutôt violettes. Voilà,
La vitelotte, c'est ça?
Ouais, mais même...
Pas type vitelotte.
Ouais, encore très, très foncé. Bon, en purée, bon, ça fait joli, ça fait une espèce de violet pomme de terre, là, quand on mange des...
Ouais, mais au goût, ça sert à rien.
Mais au goût, franchement, je l'ai trouvé très pâteuse, donc on est plutôt dans la purée, alors que c'était considéré plutôt comme la pomme de terre, revenir à la casserole, là. Non, mais c'est pas la poêle, donc c'est pas top, top. Donc, aller des fois sur des traditionnels, on n'est pas forcé de changer. N'oubliez pas aussi que dans les patates colorées, c'est pas mal non plus. Tout ce qui va être rosa quelque chose ou rouge, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Mais si vous avez de bonnes pommes de terre et des fois une bonne variété que vous avez depuis des années et qui se passe de famille en famille, c'est une bonne chose. Des fois, on vous donne des petits paquets dedans ou des essais. Voilà, faites-le, hein, ça ne pose pas de... passe pas de problème, mais soyez sûr si vous êtes de la variété que vous allez acheter. Quoi.
Une amie me disait ce dimanche qu'elle avait acheté des tomates, hein, donc les fameuses tomates chez le passionné qui cultive sans eau, et elle me disait, il n'y a pas grand-chose. Je lui ai dit, mais c'est normal, tu les arroses, donc du coup, elles ne sont pas du tout D'une, c'est pas ton terroir. Enfin, c'est pas le même terroir.
Ouais.
Je dis pas que ça marche pas. Hein. De deux, la tomate, accessoirement, c'est quand même vachement de la flotte. Et il me dit, ouais, mais il faut en planter une centaine pour que j'en ai au moins beaucoup pour faire de la. Mais c'est normal. Si t'as pas d'eau derrière, tu peux pas produire autant. Alors, c'est pas que ça marche pas.
Ouais.
C'est que derrière, il y a des spécificités. Il me dit, ouais, mais ce que je récupère à chaque fois, bah, finalement, ça marche quand même. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire.
Oui,
l'adaptation au terrain fait que. Et puis après, je sais que les noirs de Crimée chez moi, ça pousse pas, ça devient acide.
Oui.
J'ai essayé quelques années, ça marche pas. Je mets une croix dessus. Je pars sur autre chose.
Ouais, c'est pour ça que des fois, c'est. Voilà, la spécificité dans un terroir peut être vraiment bien différente. Alors, quand je parle de terroir, hein, je veux dire, il faut que ça soit des fois des centaines de kilomètres. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais souvent, quand le voisin a quelque chose qui réussit bien, bah, on peut estimer que c'est peut-être une bonne chose. Par contre, le tonton ou la tata qui habite à 200 km, ce n'est pas parce qu'elle a trouvé quelque chose de fabuleux que c'est fabuleux pour vous, quoi.
On est d'accord. Eric, on continue dans les autres espaces. Ça continue à bouturer, à tailler,
puisque tu le fais,
bien sûr.
Alors, bouturer, voilà, c'est un peu compliqué parce que les plantations sont vraiment aujourd'hui... elles sont tellement avancées que les boutons sont bientôt en fleurs et compagnie. Donc, le bouturage est un petit peu compliqué parce qu'on est sur du végétal qui est fragile. Bon, voilà. Mais ce n'est pas très grave. Même du forsythia en fleurs, hein, vous pouvez aussi le bouturer hein, si vous le souhaitez. Et vous pouvez bouturer les petits fruits. Mais on ne le dit jamais assez, quand on est au mois de novembre, c'est quand même mieux de bouturer au mois de novembre. Hein.
Bon, donc c'est peut-être un peu tard. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, faisons-le comme ça. Et puis, on continue à tailler. Tu le disais il y a un instant. Attention à la taille, hein, notamment sur les petits fruits, Eric.
Oui. Bah oui, c'est hyper dangereux.
Fleur et du bougeron.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut presque prendre le grand sécateur et autres pour éviter de mettre les bras et le corps dans le framboisier et surtout dans le cassissier ou le groseillier parce que vous ébourgeonnez tout.
Eh bien, dernière recommandation à faire, toujours des outils bien affûtés.
Oui.
Ça évite les soucis. Et puis, on va passer à la deuxième période de ce mois de mars avec une période de lune ascendante, favorable encore au semis.
C'est ça.
Où tu nous proposes de continuer, bien sûr, les tomates.
Oui, bien sûr.
Les semis
tomates et de poivrons et de piments, en sachant que pour les aubergines, c'est un peu juste. Hein. Voilà, surtout pour les particuliers, parce que ça ne pousse pas assez vite. Voilà, on va toujours au potager, on va semer en pleine terre pour toutes les régions en France, épinards, fèves, pois. Voilà. Alors, quand je dis pois, c'est aussi petits pois et pois, hein, bien sûr. Et semer en pleine terre ou sous abri selon la région, carottes hâtives, le persil, les navets, bien sûr, navets de printemps, et les radis roses. Ça, c'est impeccable. Et puis, commencer pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, pour les plantes, je dirais, d'été et d'automne, bah, les semis de choux, voilà, pour les variétés précoces, les poireaux d'été, et pour ce qui est un peu moins précoce, mais qui est, moi, je trouve que c'est vraiment le très bon moment, même si ça ne marche pas tout de suite, ça va venir après. C'est les laitues de printemps.
Voilà. Donc là, un rendez-vous à ne pas, pas manquer.
Voilà, n'oubliez pas aussi que si vous le faites sous abri, c'est-à-dire sous tunnel ou sous serre, n'oubliez pas que c'est quand même des milieux assez chauds et tous ces semis qui lèvent assez rapidement ont besoin d'humidité en continu. Je dirais avec les coups de chaud qu'il peut y avoir, parce que quand il fait chaud, il fait chaud. Voilà, les coups de soleil sont importants. Si vous avez une journée qui est prévue avec un ensoleillement assez correct, je dirais, même si c'est simplement des éclaircies de plusieurs fois dans la journée, arroser deux fois dans la journée pour garder l'humidité, je dirais, sur le semis, quoi.
Et pas détremper, encore une fois.
Non, pas détremper, il faut mieux arroser deux fois petitement qu'une grande fois grandement.
On est d'accord. Et on continue, par contre, en pleine terre, sur un sol ressuyé, à semer les pois,
les pois, allez-y. Alors maintenant, il y en a qui aiment bien les semer dans des godets à l'avance, c'est vrai. J'étais chez quelqu'un hier, je taillais, et il y avait la moitié des petits pois qui étaient dehors. Ça, c'est les oiseaux hein, qui vont les chercher, qui gratouillent. Hein.
Moi, je mettais très souvent un voile
de
ce
garage
parce que franchement, voilà, c'est un peu...
Après, les oiseaux, ils ont l'habitude d'y aller. Hein. C'est sympa, mais bon, ça embête un peu. Donc, mettez un voile ou mettez un petit filet en surface... Les effaroucheurs type les trucs qui brillent, les tourniquets de plage et compagnie, vous pouvez les garder pour les enfants, hein, ça ne sert à rien.
Et puis, en sous-abri, tu en parlais un instant, les laitues, mais aussi les choux.
Oui, les choux, là, c'est toujours intéressant pour ceux qui croient encore, hein, parce que On ne sait jamais comment on va être mai-juin. Voilà. Mais voilà, de quand même de semer des choux dits précoces. Hein. Ouais. Donc voilà, ça peut être du chou fleur, du chou brocoli ou d'autres choux paumés et compagnie. Mais globalement, moi, ce que je conseille, comme on ne plante pas beaucoup de choux, enfin, tous les types de choux hein, à cette époque, bah, autant les acheter chez les pépiniéristes, barquettes de 6 et compagnie. Et puis peut-être de préparer les choux qui seront plutôt des choux d'hiver que vous pouvez faire vous-même. Voilà. Des fois, entre un paquet de graines, je dirais, et acheter quelques plants, bon, voilà, je suis pas, voilà, moi je suis d'avis des fois à faire à travailler tout le monde. Hein.
On est d'accord, y compris mon jardin bio.
Oui.
On va passer, si vous le voulez bien, mon cher Eric, aux questions.
Oui.
On va commencer par Stéphanie qui nous envoie un long message. Alors je vais essayer et qui intitule son mail question pour nos experts préférés. Bonjour Eric, bonjour Brice, ravi d'avoir découvert votre podcast il y a quelques mois. Suivre vos astuces au gré de notre météo de chaque semaine est un créneau parfait. J'ai commandé votre livre et je guette ma boîte aux lettres avec impatience. Depuis un an, j'ai la chance d'avoir une petite maison dans le nord de la France avec un jardin derrière et un petit parterre devant. Les anciens propriétaires nous ont laissé quelque chose d'assez classique, du gazon et une haie. Je commence à aménager petit à petit, créer un espace potager, remplacer des haies par des arbustes fleuris, mettre des plantes grimpantes sur les parties bétonnées. J'aurai donc quelques questions. J'ai commencé à aménager devant ma maison en retirant les haies classiques pour remplacer par une haie fleurie devant et une multitude de bulbes. J'ai laissé quelques haies sur le côté, mais je souhaiterais finalement les enlever aussi pour des haies de petits fruits. J'ai été influencé par Eric. Eric, tu es le gourou du petit fruit.
Ouais, je sais.
J'ai commandé en pépinière un myrtillier, cassissier, framboisier nombre montant qui ne devra pas dépasser les 1 mètre de haut. Contre le mur, nous allons ajouter un récupérateur d'eau. Est-ce que cela vous semble cohérent? Donc l'idée, c'est, on a compris, hein, devant le mur,
oui.
De mettre ces petits fruits.
Alors moi, c'est cohérent, sauf qu'il y a un myrtillier quoi, qui demande ouais. une terre acide. Donc des fois, donc, le long d'un mur, chose. C'est encore plus calcaire qu'ailleurs. En raison des fois des fondations du mur, hein, donc des fois il y a de la chaux. Donc là, ça va être compliqué pour le myrtillier.
D'accord,
sauf
donc vous êtes
si
à le mettre
le myrtillier,
à
on a fait un énorme trou, on a mis une petite bâche plastique toute simple, on a mis de la terre de bruyère, donc ça irait. Donc quand on parle de myrtillier, je suppose que c'est des bleuets. Hein. Voilà. Donc là, ça va être compliqué parce que ça demande quand même une certaine acidité, parce que si on met du cassis et groseille à côté... Voilà, c'est qu'on est plus sur une terre un peu plus calcaire qu'acide. Donc attention, voilà, je dirais que le myrtillier, je ne le mettrais pas à cet endroit-là, je le mettrais dans un endroit spécifique parce que ça demande une terre spécifique.
Justement, je devrais y mettre, est-ce que je devrais y mettre juste deux arbres fruitiers, non pas trois au vu de la place? Je me demande si le framboisier n'est pas trop. Tu viens d'y répondre, on
voilà.
évite le myrtillier.
Et voilà,
à cause
je
ne
mettrai
ça.
Pas. Et donc, et si vous avez des types groseille, cassis, n'oubliez pas souvent, si vous l'avez acheté chez un pépiniériste, ça peut arriver que le pied soit très grand. Vraiment avec beaucoup de branches, hein, donc ça, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Mais ça se peut aussi que vous ayez des branches en trop dans ce cassissier ou ce groseillier. Donc il faut en profiter pour enlever les branches de trop et de les bouturer tout de suite dans un substrat un peu humide avec beaucoup de matière organique, type plutôt terreau. Et comme ça, ça vous permet d'avoir deux ou trois petits fruits, d'en avoir des plus jeunes. Et donc, vous multipliez par deux ou par trois votre plantation.
On va rajouter aussi à la question si le framboisier est peut-être de trop. Je pensais le mettre au fond de mon jardin, près des grimpantes. Alors, c'est les photos des belles plaques de
oui,
béton
bien
hein, qu'elle nous a envoyées.
Voilà, ça, voilà. Ça passe. Et en sachant que si vous mettez du framboisier, surtout si c'est du framboisier remontant, vous n'êtes pas forcé de mettre un palissage. Par contre, si c'est du framboisier qui est non remontant, vous devez les palisser. Alors, on peut les palisser sur des fils, c'est-à-dire voilà, avec des fils, plusieurs fils qui sont à l'horizontale. Mais vous aussi, vous pouvez palisser votre pied sur un gros piquet qui est bien foncé dans le sol. Et donc, tous les ans, vous rabattez les nouvelles pousses sur ce piquet et les anciennes, vous les coupez.
Nous avons préparé un futur espace potager, enlevé les haies, mis du fumier de cheval, vidé le vieux compost, mis de déchets verts. Bref, une belle lasagne faite cet automne. Et si j'ai bien suivi les conseils d'Eric, j'attends que le sol soit détrempé pour commencer quelque chose. Hein? En attendant, j'ai une plante qui pousse dans ce futur potager partout sous les haies. J'ai lu que quand on essaie de l'enlever, si on oublie un morceau, il en pousse trois fois plus. Est-ce vrai? Y a-t-il une solution et dois-je la laisser vivre? Nous avons un chat et j'ai aussi lu qu'elle pourrait être toxique. Je ne me mets aucun nom sur cette plante, mais je suis sûr de l'avoir identifiée. Je ne suis pas sûr de l'avoir identifié. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est sur, c'est une espèce de plante verte, là, hein, j'imagine. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que moi j'en ai aussi au jardin? Est-ce que c'est grave, docteur?
Bah, je sais pas, je vois pas la plante, moi.
Alors, c'est sur la
Ah oui, ça y est. J'étais pas sur la bonne photo, le
l'espèce de
garçon.
plante verte.
Oui, ça c'est des arômes, hein.
Ouais.
Donc voilà, c'est très toxique.
Oui.
Voilà, mais
Bah,
bon,
si on la mange, non?
oui, si on la mange, bien sûr, hein, ou si on la donne à manger. Mais bien sûr, ça vous pouvez planter dedans. Hein. De toute façon, dès qu'il va y avoir de la concurrence, ça va complètement se diminuer. Mais c'est pas très grave. Hein.
Donc c'est pas très grave. Bon, donc faut juste si vous la manipulez, on se lave les mains ou on met des
C'est
gants.
ça, voilà. Et puis ça, voilà, c'est un petit peu. C'est comme les arômes qu'on a en forêt. Hein.
Bon.
Voilà.
Dernière question, j'ai peur de commencer mon potager car l'année dernière il y avait un nombre sidérant de limaces. Avec la pluie actuellement, j'ai peur que ça recommence. Alors
Ouais.
j'ai acheté des graines de soucis, d'aneth, de bourrache pour faire une barrière olfactive. Peut-être dois-je également prévoir des légumes sacrificiels. Nous avons observé un hérisson qui, j'espère, nous aidera également. Mais
Ouais.
avez-vous des conseils pour que ça soit pas et que je ne sois pas découragé dès ma première année de jardinage par ces
Bah,
nuisibles?
disons que là, dès les premiers légumes, bon, c'est compliqué, hein, s'il y a de l'humidité, s'il y a des limaces, il y a pas mal de murs, il y a de caches, donc forcément, faut pas que l'auditrice soit surprise, mais les limaces attendent, donc complètement. Donc c'est pour ça que des fois, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de trouver un espace un peu libre dans le jardin pour plutôt les plantations et ou les semis de printemps qui sont sensibles aux limaces, quoi, voilà. Ou ce qu'on peut imaginer faire, par exemple, si vous mettez quelques salades, c'est de prendre un pot, de couper le fond, et après, une fois que vous avez planté votre plant de salade, bah, vous vissez ce pot qui est donc sans fond dessus, vous laissez 3 à 4 cm dépasser, hein, par exemple, un pot à peu près la grandeur d'un pot de fromage blanc d'un kilo, et puis ce que vous pouvez mettre dedans, même si nous, on n'est pas avec Brice. Des grands fournisseurs de d'antilimaces, vous pouvez mettre quelques granulés d'antilimaces autorisant l'agriculture biologique dans le pot.
Oui, on peut. Et puis il y a aussi d'autres moyens, on va le rappeler.
Ouais.
Hein. C'est le paillage notamment de Miscanthus
Ouais,
qui est
voilà,
riche en silice. Et il y a.
qui limite pas mal quand
C'est
même.
ça, la cendre, mais le problème c'est que dès
Bah,
qu'il y a une grosse pluie, il n'y en a
voilà.
plus.
Mais
Les
c'est pour
coquilles
ça.
d'œufs, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Bon, il y a même des aiguilles de pin, hein, c'est pas mal.
C'est ça.
Mais après, quand il y a trop de limaces, il y a trop de limaces, quoi. Hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc l'utilisation un peu chimique avec du ferramol, voilà, ça permet de sauver quelques pieds au début, quand même. Hein. Faut pas oublier, parce que quand on a un terrain à limaces, on a un terrain à limaces. Donc voilà. Surtout que le lieu avec les arômes montre que c'est un terrain quand même qui a une certaine humidité. Hein. Les arômes dans son milieu naturel, c'est des plantes de sous-bois. Hein. Donc pour vous dire que c'est une plante qui aime bien l'humidité et le sous-bois est quand même le milieu de vie idéal pour la limace. Donc voilà, c'est. Ou de mettre des fois des plantes déjà un peu grandes. Mais comme dit, si vous pouvez faire ce petit jeu voilà, entre des pots coupés au fond et de pouvoir voilà, visser dessus et puis mettre quelques graines, ça permet de faire facilement, je veux dire, la jonction pour les salades, quoi.
Autre point, Stéphanie nous dit, je remarque aussi qu'il y a plein de mousse dans le gazon et dans le carré potager. Pour la
Ouais,
mousse, est-ce que
bah,
c'est gênant?
voilà, c'est une zone qui est humide, voilà. C'est
Forcément.
une zone peut-être qui est un petit peu à l'ombre. Donc, bien sûr, il y a de la mousse. Donc, il y a de la mousse, il y a de la mousse. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est enlever avec le râteau à feuilles un peu de mousse. Parce que là, on a quand même eu depuis novembre une période très humide. Donc, ça va vous enlever la mousse. Et cette mousse, vous la mettez dans un endroit qui est bien ensoleillé. Ça va servir un petit peu comme paillage, je dirais, un peu spongieux. Mais la mousse ne va pas se développer dans ce secteur-là parce qu'il sera dans un environnement qui ne lui correspond pas. Donc j'invite quand même à l'auditrice de scarifier avec simplement, n'achetez pas, ne louez pas un scarificateur, hein, prenez simplement un râteau à feuilles, vous enlevez une grande partie, ça peut faire des fois, il y a peut-être des fois moins d'herbe que de mousse. Hein. Mais ce n'est pas grave, ça va permettre au gazon de redonner. Après, vous demandez au mari ou vous-même de faire pipi un petit peu dans l'arrosoir. Comme ça, vous ajoutez un petit peu d'azote quand vous allez arroser votre gazon. Et ça va permettre de lui donner un petit coup de fouet.
Bien, voilà en tout cas pour Stéphanie qui complète rapidement son propos. Futur carré potager, hein, 2,20 m sur 2,60 m, plein sud. Mon unique plan était de mettre des tomates près du mur. Pour le reste, aucune idée du fait des limaces et d'ailleurs sûrement des souris. Aussi, je pensais par exemple ajouter une mini serre de forçage. Bah, là, après,
Oui, après,
on
sur
ouais.
un carré potager, on peut le faire dans un premier temps, mais c'est vrai que le changement climatique, on peut gagner un peu de temps, je veux dire, au printemps, voilà, mais surtout, on gagne du temps après. Donc, pourquoi pas. Quand je dis après, c'est on dit en fin de saison, quand qu'on recouvre avec les salades d'hiver et compagnie. Quoi.
Bon, bien sûr.
Donc, il faut que l'auditrice puisse trouver des tubes en plastique souple. Des fois, ça peut être de la récup, justement de chauffage au sol, hein, les fameux tubes bleus là, qu'on peut trouver. Où vous pouvez aller en jardinerie spécialisée professionnelle pour mettre des arceaux en ferraille. Ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment très efficace parce que l'achat qui est fait, après, vous pouvez le réutiliser ainsi de suite ou récupérer des tubes en plastique tout simple.
On est d'accord. Eric, on va continuer nos questions avec Jimmy qui nous dit « Question jardin ». À Mérignac, il est donc dans l'agglomération bordelaise et qui nous dit « Bonjour les deux acolytes, je vous connais que depuis le début de l'année, mais je vous aime déjà fort, merci Jimmy. Ma question est, que pensez-vous de mon pêché? Mercredi dernier, j'ai fait une première taille d'arbre fruitier, première taille de ma vie hein, sur ce pêché. Alors, je l'ai alors taillé alors qu'il était déjà en fleur, c'était pour lui aussi sa première taille dans sa vie de mon jardin. Hein, je n'ai pas réussi à retrouver le passage de votre podcast où vous en parliez, du coup j'ai regardé sur le site Silence ça pousse pour savoir comment faire. Alors, Eric a dit, on ne lui répondra pas. Si, Eric, on va
mais si, bien sûr, on répond.
Enlevé le bois mort, les branches qui s'entremêlent, les trop verticales ou trop celles qui vont vers l'intérieur. J'ai raccourci ce qu'ils appellent les rabots à bois. Les rabots à bois, pardon, j'ai l'impression maintenant qu'il ne reste quasiment que ce qu'on appelle des rameaux mixtes, donc fleurs plus bourgeons à feuilles sur la même branche, et que je devrais raccourcir à un bourgeon. Mais dans ce cas, cela voudrait dire qu'il faut que je l'enlève quasiment tout de mon arbre et ça me paraît assez bizarre.
Oui, ça, il y a deux tendances comme ça. Alors moi, je ne suis pas de celle-là. C'est souvent les bourgeons sont coupés très courts. Alors moi, je fais plutôt comme ça. Comme ça, ça permet de jouer, surtout si c'est de la pêche de vigne et compagnie, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas le bois rouge. Parce que le bois rouge, c'est le bois qui a poussé en 2023 et qui va fleurir en 2024. Donc d'enlever tout le bois gris, et notamment quand je dis le bois gris, c'est les pousses toutes desséchées et compagnie. Des fois, quand on enlève toutes ces pousses desséchées, comme le dit Stéphane Marie dans son livre, c'est la meilleure des solutions. Hein. Il faut enlever tout ça. Ça permet de faire aussi un espèce de traitement mécanique, c'est-à-dire au sécateur. Donc, c'est super. Et après, dans le choix des bourgeons, il faut les garder ceux qui sont les plus près des structures principales. Plus votre petite branche rouge, là, qui peut faire jusqu'à 15, 20, 30 cm, est éloignée de la structure principale, moins elle est alimentée par la sève. Donc, c'est un peu compliqué pour les pêches. Donc, il faut savoir que là, vous gardez une partie, je dirais, de ces branches rouges, mais vous les gardez dans leur entièreté. Je veux dire, pas couper ni rien, comme ça peut se faire aussi, et qu'une technique aussi très valable, je ne dis pas. Mais moi, je préfère les laisser. Globalement, je préfère en enlever, soit je laisse, soit je coupe. Voilà. Moi, je préfère aller dans ce sens-là, comme ça, ça limite les blessures.
Alors, il cloque complètement chaque année, puis refait des feuilles partout et me donne à peine maximum 3 fruits plutôt bons, mais très rabougris. Ouais. J'habite l'agglomération bordelaise, jardin 300 m² en zone urbaine, hiver bien pluvieux, été étouffant et sol est quasiment du sable hein, par ici. Il a toujours été recouvert de feuilles au pied que je lui amène, hein, comme surtout mon potager. Il est planté d'ailleurs une extrémité. J'espérais qu'il fasse un peu plus d'ombre l'été, mais il a surtout ramené du puceron partout sur mes tomates l'année dernière.
Ouais, mais c'est pas lui qui va l'amener.
C'est pas lui, ouais. Par contre, car après la cloque, il y a eu les pucerons.
Ouais,
alors
normal.
Je mets du biofumure en granulé 2 fois par an et je veille à ce qu'il ne souffre pas trop du manque d'eau. En attente de vos précieux conseils, je vous souhaite une excellente semaine.
Oui. Alors moi, dirais que Jimmy, c'est Jimmy, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Bon, qu'il fasse un peu, voilà, le pêché est venu, il a fait des fruits, puis il partira, pour faire simple. Hein. L'idéal, c'est que ce pêché-là ne correspond pas du tout à son jardin. Voilà. Donc, il ne fera que de la cloque, il sera toujours malade, ça sera compliqué.
Il faut changer, quoi.
Oui, voilà. Et plus on va lui donner à manger de trop, plus il va s'enrhumer, donc plus il va faire de la cloque et de l'oïdium. Et des pucerons, voilà.
Donc, en gros, changer.
Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est, je suis persuadé que dans les 1 km² où il se trouve, Jimmy, il a peut-être quelqu'un qui a des pêches de vigne, hein, surtout qu'on est dans le Bordelais, donc peut-être qu'il y a des pêches dites de vigne du secteur. Et donc, l'idéal, c'est qu'il va aller manger des pêches de vigne chez quelqu'un qu'il connaît, il récupère des noyaux, puis il les sème.
Fort.
Donc, c'est comme ça, ça évitera, en plus, surtout si la personne lui dit qu'il a très peu sensible à la cloque, donc chez lui, ça sera quand même moins sensible à la cloque. Moi, je conseille plutôt ça, de prendre plutôt le pêcher comme un arbuste voilà, de court terme, voilà, et de semer, et au bout de 3 ans, il y a des pêches. Et de recommencer cette pratique tous les 4-5 ans, de manière à pouvoir renouveler le pêcher.
Bien. Et Eric, on va passer à Emeline et Alex qui nous dit, nous avons planté, bonjour à tous les deux, nous avons planté un érable fin d'année 2020 au fond de notre jardin pour couper la vue sur de futures constructions. À l'été 2023, il n'a visiblement pas aimé la chaleur et la sécheresse car il a perdu une bonne partie de ses feuilles.
Oui.
Alors on a décidé de l'arroser plus copieusement et plus régulièrement, ce qu'on faisait, mais cela a permis, et cela semble avoir permis de le garder en vie. Mais aujourd'hui, des bourgeons commencent à sortir, mais uniquement sur certaines branches.
Oui.
Nous demandons donc si nous devons couper les branches sans bourgeons, et si oui, comment ? Y a-t-il possible ou conseillé de tenter une greffe ?
Non, c'est pas la peine. Je sais pas comment il est. On n'avait pas de photo. Hein.
Si, on a une photo. Ah. C'est question au Somfort de Emeline.
Emeline, pardon.
Qui nous dit, c'est vrai qu'on voit la photo. Alors, je vais vous la décrire, hein, chers auditeurs. Il y a une partie où ça bourgeonne et puis il y a la partie droite, hein, quasiment, la partie supérieure où il n'y a rien du tout en termes de pousses.
Ouais. Très bien. Alors là, en principe, comme je cherche la photo, Brice, t'es contraint de chanter une petite chanson.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle du comblage.
C'est du comblage.
Elle s'appelle Question on s'aime fort dans
le
mail.
Oui, mais je n'ai pas, je n'ai pas cette photo.
Tu n'as pas cette photo,
c'est bizarre, c'est très bizarre.
C'est très bizarre.
Je ne l'ai pas du tout. J'ai le poirier, le citronnier, tout ça, mais je n'ai pas cette photo.
Bah, je vais la décrire. On a toute la partie gauche qui prend et la partie supérieure où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un seul bourgeon.
Ouais, donc de toute façon, il faut enlever toutes les branches qui sont malades et qui sont sèches.
Donc ça, c'est considéré comme malade et sec, du coup, c'est
donc il faudra aussi les enlever au fur et à mesure s'il y a des branches qui ont été demi-atteintes, je dirais les suivantes. Mais moi, sur un érable, je serais d'avis de le couper, enlever le tiers supérieur pour que ça reparte du pied. Hein. Voilà.
Bien, voilà. Auriez-vous aussi des conseils pour que ça se reproduise plus, justement? Alors, elle est à Hirschfelden, hein, avec un galet, avec un terrain.
Ah, Hirschfelden, ok, très bien. Bon, c'est des terrains, moi, je connais très bien Hirschfelden.
Très généreux en galet.
Ouais, très généreux en galet, donc souvent très filtrant. Bon, mais moi, je donnerais un bon coup de dent pour que ça puisse redémarrer, parce que là, le système racinaire n'était pas assez conséquent par rapport au système aérien.
Donc, l'objectif ?
C'est de couper une bonne partie...
De tailler tout ce qui n'est pas venu, on est d'accord.
Oui, c'est ça, et puis aller bien au-delà pour que ça puisse se donner, de le taquiner, le titiller pour que ça reparte sur une belle branche qui puisse le remplacer.
Titillons l'érable. Merci beaucoup pour votre aide et longue vie au podcast. Hirschfelden, ce sont quasiment des voisins. Frédéric qui nous dit bonjour, je découvre avec plaisir votre podcast. 2 semaines que j'écoute vos émissions depuis vos débuts, à défaut de 8 à 9 heures par jour pendant mon activité professionnelle. Comment vous dire, j'adore et c'est surtout très instructif, un plaisir de vous écouter. Les mains dans la terre depuis mon jeune âge, j'ai appris plein de nouveautés avec vous. Merci beaucoup, en tout cas Frédéric, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors j'ai une petite question, j'ai un lapin nain qui a rejoint notre famille et il possède un bac à litière à base de granulés de bois, style des pelets, hein.
C'est
grand majoritairement du résineux. Est-ce que je peux me servir de cette litière dans mon jardin ou dans mon compost ?
Eh bien sûr, donc ça peut être directement dans le compost, c'est pas mal. Et vous pouvez directement le mettre au jardin de fruits, par exemple tomates, aubergines, courgettes et tout, citrouilles, potirons, voilà.
Donc il n'y a pas de problème.
Non, voilà, par exemple, là, je raconte ma vie, il y a mes enfants qui sont venus avec 2 lapins, j'ai 2 bacs, je les ai laissés dehors.
Ah, je fais pour le repas du midi.
Non, le lapin, c'est durable, hein, donc je ne fais pas plus que ça. je les ai mis dehors. Et comme
c'est
il
un
a
festival.
Plu, ça permet de nettoyer en plus la litière, hein, comme ça, et donc j'ai l'espèce d'eau mouillée avec les crottes du lapin, et ça, je vais le mettre à l'endroit où je vais mettre mes futures tomates, poivrons et aubergines.
Je vais au bout de l'idée de Frédéric. Alors, la litière d'animaux herbivores, pas de problème.
Oui.
La litière d'animaux carnivores, bon, je pense aux chats, je pense aux chiens.
Ouais. Par exemple, on m'a posé la question récemment là, pour un chien Labrador, donc c'est quand même un peu plus gros, mâle en plus, hein, donc un peu plus gros. Et donc, ils étaient embêtés parce qu'ils disaient, ils récupèrent des sacs en plastique, et ils mettent la crotte dedans, puis cette crotte, ils le mettent dans la poubelle. Bon.
Ouais.
Il vaut mieux
dans une poubelle que par terre.
Exactement. Alors moi, ce que je lui ai conseillé, c'est que le jardin est assez grand. Moi, c'est ce que je faisais avec, quand j'avais un labrador, c'est je fais un trou de la grandeur d'un fer de bêche, voilà, profond et large d'un fer de bêche, et je prévois, voilà, par exemple, une dalle ou une tuile, une grande tuile pour mettre dessus. Et à chaque fois que je ramassais une croche, je mettais dans le trou. Voilà. Et à la fin de l'année, je refermais le trou avec la terre qui était restante sur le côté et je changeais de trou d'année en année.
Et donc, ça permet derrière de faire un silo de compostage.
Ouais, un peu dégueulasse, mais je veux dire, voilà, je vois pas pourquoi je vais le mettre dans la poubelle. C'est plus fatigant. J'avais une petite pelle à côté, je remplissais, et puis ouais. Dans la terre,
ça va se désagréger. Quoi.
Bien sûr, ouais. Si on a un grand
jardin. Mais il n'est pas question de le mettre en terrain de salade, c'est ça ce que je veux dire.
C'est ça. Voilà, c'était bien à part. Alors, bien sûr, si vous avez un terrain qui fait 2 mètres sur 1, ne faites pas ça.
Ne faites pas ça. On est d'accord. Charline qui nous dit merci pour votre podcast que j'ai découvert il y a peu de temps. Elle remercie d'ailleurs Ludivine et nous aussi hein, pour le coup. J'essaie de me tenir à jour des nouveaux épisodes et picore les anciens en fonction du temps disponible. Voilà une petite question. Fruitier, nous avons acquis une maison il y a de ça 2 ans. Elle a été construite il y a une dizaine d'années. Le projet a imposé la plantation de 2 arbres fruitiers. Pas mal. Nous avons donc 2 poiriers. Cependant, ils ont l'air bien faibles, surtout l'un d'entre eux par rapport à l'âge qu'ils doivent avoir. Cela donne l'impression qu'ils ont été plantés pour la forme et non pas pour en prendre soin. Alors ça, on pourra en parler pendant des heures, hein, Eric. Le plus petit, est mort sur au moins un côté, ne sachant pas comment il a été planté. Que vaut-il mieux faire ? Espérer l'entretenir au risque que ça prenne des années ou tout simplement le remplacer ? Charlie nous a envoyé aussi une photo, hein, question poirier, remplacer ou espérer oui. On voit un poirier avec des bourgeons, des gros bourgeons certes, mais déjà rempli de lichen et avec une écorce vraiment mal en point.
Oui, bon, quand on a des arbres qui sont moribonds, qui ressemblent plus à un porte-manteau qu'un arbre.
Faites-en un porte-manteau.
C'est pas pratique dehors parce que quand il pleut. Mais le truc, c'est quand vous avez ça, vous avez 2 solutions. Soit vous remplacez, voilà. Ou soit il y a l'autre solution, parce que de toute façon, maintenant, on ne peut plus le remplacer, il faut attendre l'automne. Moi, je les couperais de moitié.
Oui.
Net.
Oui.
Et souvent, ce qui se passe, moi, je l'ai vu cet après-midi, j'étais en cours de taille avec d'autres arbres, d'une année sur l'autre, il y a des repercements qui se font. Et après, en retravaillant sous le nouveau bois, on peut reformer un arbre.
Bon.
Donc là, il faut vraiment que les auditeurs, l'auditrice me fasse confiance, quoi.
Bon, donc,
moi,
continue.
Je couperais de moitié, voilà, les deux,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Et là-dessus, de toute façon, si ça ne redémarre pas, c'est que l'arbre, il était vraiment très peu fourni en vaisseau cohérent dans l'arbre. Donc, sinon,
ça n'a jamais bien pris, quoi.
Donc, il faut couper à ras, il ne faut pas avoir peur, ça fait plutôt piquer à tomate. D'ailleurs, vous pouvez vous en servir pour soutenir une autre plante, comme ça permet de maintenir de la fraîcheur. Et des fois, ça peut être même une bonne solution, parce que si vous mettez un pied de tomate sur votre poirier tuteur, voilà, comme vous allez l'arroser souvent, ça va permettre peut-être d'améliorer la chose par rapport au poirier. Donc, ça va permettre que quand le surplus de l'eau va servir à la... Et si l'arbre est en pleine forme, il va redonner des pousses. Et c'est à partir de là qu'on peut reformer sans non plus avoir un arbre merveilleux, mais on peut avoir quand même des choses assez surprenantes sur repousse.
Bien, on passe à Camille qui nous dit merci. Bonjour à la Dream Team du potager. Merci pour toutes vos explications, transmission, apprentissage, encore et encore. Enfin, vous lancez dans la bonne humeur et avec quelques blagues, la preuve au début de cette émission. Je me permets de rebondir sur la question de Lorenzo. Émission du 16 février dernier. Attention, on va se faire engueuler, Eric. À propos des tuteurs de tomates. Quand j'ai entendu l'énoncé, cela m'a beaucoup intéressé car j'ai la même problématique, mais la réponse d'Eric, tout intéressante qu'elle soit, m'a semblé un peu tomber à côté, à moins que ce soit moi qui ai mal compris. Alors, je vais donc reposer la question en expliquant le contexte.
Ouais.
Pour palisser les tomates, j'utilise une structure en bambou.
Oui.
Je pose 2 trépieds de chaque extrémité de ma planche de culture et un gros bambou solide qui relie les 2 trépieds.
C'est ça.
Ça nous fait des sortes de tipi. Hein.
C'est ça.
J'accroche ensuite des ficelles sur les bambous transversales qui tombent vers les tomates que je fixe à la base du plan.
Oui.
Il m'est aussi arrivé, comme Eric l'a suggéré, d'entourer la ficelle autour du godet lors de la plantation pour un maintien maximal. Mais les ficelles que j'utilise, du jute et du chanvre, ne tiennent pas la saison complète, en particulier... Si je les ai enterrés, imaginez la cata quand la ficelle qui tient un plant recouvert de grappes se casse.
Oui.
La question est donc celle-ci. Quelle matière, tu vas te faire engueuler, matière de ficelle utiliser pour tenir une saison complète sans utiliser de ficelle en plastique ? Merci encore pour votre aide.
Alors, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de ficelles de récup.
C'est vrai.
Et notamment les ficelles bleues de vigne.
De vigne, ouais.
Voilà, ça, c'est vraiment pratique.
Quand on est à Paris, c'est un peu plus compliqué.
Pardon, ouais, c'est vrai.
Quand on est à Paris, c'est un peu plus compliqué.
Mais complètement, moi, j'aime bien utiliser des vieilles ficelles de corde à linge.
Ouais.
Voilà, ça, c'est vraiment pratique. Il y a même une petite gaine dedans. Il y a même de l'acier dedans hein, pour que ça soit plus rigide. Mais c'est vrai que si vous prenez une ficelle trop légère, ça ne marche pas. Il faut vraiment prendre une grosse ficelle en cisale, mais vraiment du gros, parce qu'à la fin de l'année, ça sera décomposé. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais moi, c'est sur de la récup, hein, et notamment, vous en avez une qui est vachement bien, c'est les étendages que vous avez dans les maisons, vous savez, au-dessus de la baignoire, là, et que des fois, ça foire, et donc, vous perdez tout le rouleau. Moi, je garde tous ces fils-là hein, de gens, voilà.
Ouais.
Vous avez aussi les fils téléphoniques, des fois, que dans les entreprises, pour tirer les câbles, chez les PTT et compagnie, ils ont aussi des rouleaux. Enfin, il y a plein de. Moi, c'est plutôt de la ficelle de récup. Puis, hein,
si vous avez la fibre optique, prenez-en aussi. Tiens, non, mais blague à part.
Non, mais ouais. Alors, si je comprends, alors moi, je les garde d'année en année. Hein,
enfin, il faut les récupérer après quand tu débarrasses le jardin, Eric.
Bah non. Moi, je laisse pendre les fils.
Ah oui, non, pardon. Oui, non, mais je veux dire, si on veut enlever complètement l'installation, c'est
ah
ça
oui,
ce que je veux
sûr.
Dire. Voilà,
ou je laisse attacher sur le... Moi, j'adore ce système d'accrochage parce que c'est tellement plus facile. Moi, j'utilise aussi la ficelle vraiment de récup qui est surtout pas biodégradable. C'est clair.
Voilà. Faut... Et après, pour attacher ces tomates, alors que ça soit au fil, non pas au fil, mais au piquet, attention aussi au piquet parce que c'est vrai que les piquets en plastique ont une tendance à être très glissants et donc régulièrement, ça se...
Ouais.
Ça se met très clairement à chuter. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser tout simplement du raffia sur un système très facile, puisque aujourd'hui on a quantité. Vous doublez votre raffia, il tient. Et le piquet, des fois, c'est mieux un piquet en bois qu'un piquet en plastique tout lisse. Hein. Faut faire attention aussi à ça parce que plus on a de poids,
mais
si t'as des tomates qui portent, c'est compliqué.
Mais ce qui est vraiment bien, c'est la ficelle parce que vous enroulez au fur et à mesure votre pied de tomate. Sans vraiment le blesser parce que ça et avec le poids ça le pied de tomate se serre, c'est vraiment très pratique. De toute façon les professionnels font beaucoup 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 ça quoi.
Et on a aussi une certitude, c'est que il y a quand même une certaine souplesse, notamment quand il y a des grosses bourrasques devant sur la ficelle, il y a quand même une sacrée souplesse hein, donc c'est intéressant d'utiliser ce type de palissage.
Alors il y a un petit bémol quand même, c'est le tipi, il faut qu'il soit hyper ancré dans le sol.
Parce que
vous avez 10 ou 15 pieds de tomates de suite, il y a une prise au vent, ça se casse facilement la figure.
Oui.
Donc il faut vraiment bien enfoncer les piquets. Le bambou dessus, bah, alors ça c'est top, mais il faut bien le fixer avec des fils de fer, hein, de récup. D'ailleurs, on peut toujours récupérer aussi ces fils de fer. Et ça permet vraiment d'avoir une structure hyper solide. Hein. Presque il faut s'accouter dessus. Et si vous accoutez dessus, il ne faut pas que ça se casse la figure parce que s'il y a un coup de vent sur une prise. Au vent qui est importante, ça tout tombe. Hein.
Bonjour Eric, voilà en tout cas. Donc,
ouais,
Camille,
non, il faut vraiment. Moi je mets du biodégradable et au moins quand c'est utilisé plusieurs fois,
Oui, c'est amorti.
C'est amorti. Hein.
En termes de l'utilisation, on est d'accord. Bonjour Eric et bonjour Brice, nous dit Audrey, j'aime beaucoup votre émission. Vos conseils sont toujours très pertinents. Je sollicite donc aujourd'hui pour savoir comment tailler et entretenir mes jeunes citronniers. Ceux-ci ont été plantés en mars 2020 à partir de pépins de citron bio pendant le confinement. Ainsi, baptisé Corona Citrus, ils ont forcément Covid Citrus, ça marche aussi. Ils n'ont jamais été taillés, font pas de fleurs. Que dois-je faire à l'approche du printemps pour les fortifier? De nombreuses feuilles sont tombées cet hiver. Ils ont été mis à l'abri, mais pas en intérieur cette année. Je précise que j'habite en Bretagne, décidément. J'avance et merci d'avance pour votre aide et pressé, comme le citron, bien sûr, d'avoir votre réponse. Signé Audrey, donc on a deux magnifiques citronniers avec une tige assez droite, une double tige sur l'autre.
Oui.
Elle a deux citronniers. Qu'est-ce qu'on fait?
Disons que...
On rempote déjà, je pense, non Eric?
Oui, parce que les pots sont vraiment trop petits.
Oui.
Donc il faut vraiment prendre des pots larges, des fois plus larges que haut. Ça c'est important. C'est important. Et là, de mettre un... Alors, je sais que... On peut imaginer de planter dans tout et n'importe quoi, mais là, il faut quand même prendre un terreau spécial agrumes, qui correspond à... Voilà, ça vaut le coup de changer. Et là, par rapport au citronnier, il faut presque... ça fait 12 cm à 15 cm de chaque côté. Là, il faut presque passer à un pot de 60 cm, hein, en tout.
Ouais, donc de la place, de la place.
Il faut de la place, de la place, voilà. Ah. Un beau tuteur aussi pour le tenir, pour que ça soit bien fort. Et puis, le plus vite possible dehors, quand les températures vont être un peu plus élevées, hein, sachant que je ne sais pas ce que c'est comme citronnier. On ne sait pas si c'est un citronnier qui est voilà, adapté plus facilement, comme c'est né d'un pépin. C'est un peu compliqué. Mais là, le citronnier, il est jeune, pour faire simple. Faut savoir
trop
que
jeune.
Trop jeune, il faudrait dire que la production commence à partir de la troisième, quatrième année. Hein, donc là, il est plutôt en phase d'accroissement et non pas de développement. Je rappelle, le développement, c'est le fait que ça tend vers la maturité, donc le fait de faire des fleurs. Donc là, c'est vraiment très, très bien. Moi, je dirais qu'il faut le laisser comme ça. Vu qu'il est un peu très haut, ça veut dire peut-être qu'il a été forcé par la lumière. Il manquait peut-être un peu de lumière. C'est pour ça qu'il est comme ceci. Donc, avec un complément agrumes alimentaire qui ne coûte pas si cher que ça, parce qu'en fin de compte, on en met très peu. Donc, c'est pas. Voilà, parce que par rapport au pied et un rempotage, et surtout de ne pas tailler, voilà, moi, je ne taillerai pas. Je laisserai faire. Une branche qui est à feuilles se met forcément à fruits rapidement.
Donc, pas de panique.
Non, pas de panique. Voilà.
Bon.
Et après, pour la taille, c'est simplement, il ne faut pas qu'il y ait des branches l'une sur l'autre, voilà, des branches qu'il faut éclaircir un peu. Voilà, on est plus dans une taille, je dirais, voilà, de loisir qu'une taille de production, quoi.
On va passer à Virginie, en remerciant notre auditrice Amélie pour sa question. Virginie qui nous dit « Au secours, je viens de découvrir une platelle minte dans mon potager.
Oui.
J'ai peur qu'il décime tous mes vers de terre. Je vous ai mis une photo d'un individu suspect. Que dois-je faire à votre avis ?» On va le rappeler, c'est un vers de terre plat.
Oui, c'est un vers de terre plat qui n'existe pas en France et qui vient voilà, des pays d'Amérique latine et compagnie via les conteneurs vendus par les jardineries. Voilà, pour faire simple. Alors, ce qu'il faut dire, que c'est un ver de terre, un ver plat qui est mangeur de vers de terre, voilà. Donc, c'est une catastrophe. Et il n'a pas, pour l'instant, de prédateur, hormis l'homme qui peut le tuer. Lorsque, voilà, je ne suis pas un spécialiste des platelmintes, sauf que j'ai été en relation avec le spécialiste français, parce qu'il n'y en a qu'un, en France, du Muséum des soins naturels, qui s'appelle Jean-Loup Justine. Donc, j'invite l'auditrice à taper Jean-Loup Justine et lui, il vous offre un protocole pour quoi faire avec ce platelmint, en sachant que lui, il est très intéressé de savoir, vous serez peut-être obligé de lui envoyer, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de le référencer dans les zones en France pour savoir quelles sont les zones qui sont atteintes par ce platelmint. Donc, lui, il vérifie si c'est vraiment un platelmint. Voilà, bon, quand je le vois comme ça, vu ce que j'ai vu, je crois que oui, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Et donc, lui va permettre de l'identifier et surtout de le cartographier. Voilà.
Bien.
Donc, c'est Jean-Loup et Justine comme le prénom. Et donc, vous tapez ça. Et puis, lui, il y a tout un protocole. C'est quelqu'un qui est hyper sérieux. C'est quelqu'un qui se dévoue à cette, voilà, ces platelmintes et notamment cette plante, cette bestiole répugnante et invasive qui arrive en France.
On est en tout cas assez vigilant aussi hein, sur tout ce qu'on peut voir. N'hésitez pas. Alors, nous, on n'est pas forcément des spécialistes, des biologistes.
Non, c'est
bon, mais,
ça. Mais là,
voilà,
vraiment,
c'est
ce que tu dis, Jean-Louis Justine, c'est vraiment le spécialiste. Hein.
C'est ça. Eric, deuxième question. J'ai démarré des petits semis dans la terre moisie. J'ai démarré mes petits semis, mais la terre moisie.
Ouais.
J'ai mis du terreau de semis, puis j'ai mouillé les godets par capillarité en les mettant dans un bac avec de l'eau.
Ouais.
Et j'ai du mal faire quelque part. Alors, on a effectivement un développement bactérien. Ça manque un petit peu ça manque un petit peu d'aération, visiblement,
ouais,
parce qu'il y a un beau feutrage. Est-ce que c'est grave?
Disons que ça risque, parce que comme les plantules sont forcées à l'intérieur, ça risque de les, voilà, de leur donner un coup.
Des compromettre, ouais.
Des compromettre. Donc, voilà, moi, je remettrai un petit peu de terreau de semis dessus, voilà.
Ouais.
Et
j'ai vu que le charbon de bois effrité, ça pouvait aussi assainir
un peu.
Oui,
mais ça limite un peu l'activité du sol. Donc, tout ce qui est charbon de bois, il faut y aller très, très mollo, quoi.
Mollo, d'accord.
Voilà. Et voilà, à mon avis, ça devrait bien se passer. Hein. Puis, dès qu'il sera, de le laisser un petit peu sécher, voilà, c'est-à-dire qu'il ne soit pas surmouillé, comme dit, peut-être de les sortir du bac où il flotte dedans un peu. Et le fait que le sol puisse, enfin, que le terreau puisse vraiment se ressuyer, c'est quand même une bonne chose. Il ne faut pas qu'il s'assèche, mais il faut le ressuyer, quoi. Donc là, vous le mettez pendant une nuit sur un sur deux hors d'eau, hein, vraiment, voilà. ça va permettre de surveiller. Vous remettez un petit peu de terreau en surface. Vous mettez ça près d'une fenêtre, mais non brûlante, hein, c'est-à-dire pas forcément avec un grand soleil d'un seul coup du jour au lendemain. Et à mon avis, ça devrait bien se passer.
Dernier point et dernier élément, un immense merci pour votre aide. En attendant le retour avisé d'Eric, je continue de lire On s'aime fort, tout juste acheté. C'est mon libraire préféré, signé Virginie. Virginie est une fidèle auditrice, hein, une fidèle cliente aussi, on va la saluer. Merci en tout cas. Eric, te propose de terminer par Morgane qui nous dit bonjour les jardiniers, merci pour le podcast de la semaine dernière et merci en majuscule de ne pas avoir souhaité la journée de la femme. Je me permets juste de rectifier une toute petite erreur, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Mais je crois que c'est ce qu'on a dit d'ailleurs, il me semble.
Oui, mais c'est, on n'a pas dit international.
Ah, on n'a pas dit international, pardon. Oui, mais nous, on est très...
de faire des choses bien, puis on les fait mal. Désolé.
Bah, on dira plus rien la prochaine fois, hein, puisque de toute façon, on ne peut plus
rien
dire.
Non, on dit tout ce qu'il faut dire, il faut le dire. Je crois qu'on fait des... Voilà, de boutade. Notre côté.
Boutade.
Même si on fait des blagounettes, je crois qu'on est de ce côté-là. Je crois qu'on dit à chaque fois, voilà... Si tout le monde était sexiste comme nous, ça se passerait bien en France.
Ça se passerait mieux en France, on est d'accord. En France et dans le monde entier.
Ouais.
Revenons à nos jardins. J'ai quelques questions à soumettre à votre expertise. Je suis en Alsace. Donc déjà, Morgane, très bon choix. Hein. Je suis en Alsace. Je plante toujours l'ail et l'oignon à l'automne. L'ail va très bien, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec l'oignon. Il ne grossit pas, voire disparaît carrément selon les cas. Alors, est-ce qu'il y a une idée pour les faire grossir? Je réussis également très bien les échalotes, mais pour les oignons, rien à faire.
Ouais, je sais. Moi, je suis un peu dans le même cas. Moi, j'ai même décidé, en fin de compte, d'augmenter plus ma quantité d'échalotes ou de types qui ressemblent à des échalotes. Voilà, où je me reconnais plus là-dedans. Et là, j'ai une production toujours importante. Et l'oignon, voilà, j'ai décidé d'aller de porter un coup fort à l'oignon, pour faire simple.
Un coup fort à l'oignon.
Ouais, bon.
C'est moyen. Non, mais c'est bien.
C'est, voilà, parce que je ne donne pas assez à manger.
D'accord.
Et j'ai tendance à les planter trop près, voilà, donc cette année, je vais y aller, quoi. Prêt. Non, mais c'est souvent une histoire de bouffe, hein, aussi.
On est, oui, ouais. Et puis après...
L'échalote est quand même beaucoup plus facile à gérer, quoi.
Ouais. Après, il y a aussi une question peut-être de terre, si on est sur une terre très argileuse. Non, mais c'est un peu...
Des fois, il faut se dire, on peut pas tout réussir. Voilà. Moi, je trouve que si déjà on réussit très très bien l'échalote et l'ail, bah, je trouve ça super. Et moi, ce que je fais pour l'oignon, quand je vois que les pieds sont trop petits, voilà, je les récolte pas, je les laisse passer l'hiver suivant, et donc en fin de compte, je mange les tiges d'oignon. Comme de la ciboulette.
Ouais, c'est ce que tu racontais il y a quelques semaines, effectivement.
Voilà, comme ça, au moins, je vais manger, parce que voilà, surtout quand il fait sec. Voilà, donc je vais tester la culture de l'oignon avec un peu plus à manger, c'est-à-dire un peu plus de compost et aussi un peu d'engrais organique. Et je vais les pailler avec du foin.
Alors, justement, j'ai récupéré du vieux foin, mais mon garage n'est pas extensible. Est-ce une bonne idée de le laisser dehors ? Couvert par une bâche ou est-ce qu'il va perdre une grosse partie de ce qu'il peut apporter?
Non, c'est déjà super bien parce que si on laisse à l'humidité, il va se décomposer. Donc là, c'est vraiment super.
On le couvre.
Ouais.
J'ai énormément de potentilles rampantes dans mon jardin. Une ancienne prairie transformée en potager depuis 3 ans avec les conseils de votre podcast. Toujours couvert avec plein de végétaux, des feuilles, du foin, des déchets de taille des voisins. Mais est-ce problématique de laisser au pied des grands végétaux comme des petits fruits?
Non, pas du tout, hein.
Ok.
Voilà, potentille, ça ressemble à des fraisiers, hein, pour faire simple. Hein, c'est par rapport à c'est une plante bioindicatrice, donc on peut le laisser. Hein, c'est pas très gênant et le fait de pouvoir mettre un déchet organique dessus, alors que la potentille aime bien être toute seule, ça permet de la limiter.
Une idée pour l'étouffer?
Non,
pas besoin.
Il faut peut-être augmenter la quantité de feuilles et compagnie, hein, ça l'embête, hein, c'est tout.
Elle a testé le carton, Morgane, pendant l'hiver.
Voilà, mais c'est quand même pas si embêtant que des plantes comme le liseron et compagnie. Hein, parce que comme le déchet organique va vite se décomposer, c'est pour ça de laisser des déchets un peu plus grossiers, c'est-à-dire avec les feuilles un peu plus grosses. La paille, le foin, c'est pas top parce que c'est un peu fin. Donc, laisser des feuilles telles quelles, du gros broyat, ça va le limiter complètement. Et si vraiment Morgane, elle n'aime pas du tout la potentille, je peux comprendre, ce qu'elle peut faire, c'est comme les cartons, c'est vraiment une très bonne solution.
Mille merci pour votre génialissime podcast et votre livre. Le livre, on le rappelle, On s'aime fort, disponible dans toutes les librairies et évidemment sur notre site. et même chez Amazon. Mais il ne faut pas le dire, ce n'est pas de notre faute. Et on salue les équipes d'Amazon. Eric, on va parler de... Non mais tant qu'à faire, achetez-le à la Fnac.
Oui, quand tu faisais, ouais.
Tant qu'à faire, ou chez nous.
Oui.
Des auxiliaires et des amis, des copains, oui, des potes, c'est des cloportes.
Voilà, c'est...
Alors, moi,
parce
j'ai une question, Eric.
Ouais, vas-y,
on va réagir. C'est effectivement un auditeur qui nous a dit, bah, ça serait bien de faire des fois des focus,
ouais,
sur les auxiliaires. Tu as décidé d'écouter ce...
Oui, alors moi, je n'osais pas en faire parce qu'on en parle tellement partout sur les médias et compagnie. Je me suis dit, est-ce que c'est la peine? Mais si les auditeurs demandent, les auditrices aussi, bah, on fait, quoi. Il n'y a pas de souci.
Bah,
ouais. Surtout que moi, c'est des bestioles que j'aime bien. Ce sont les cloportes, voilà. Ce sont les seuls crustacés terrestres. Pour faire
c'est
simple,
des crustacés, hein. On est d'accord.
C'est des crustacés, mais okay, voilà, c'est comme les crabes, pour faire ça, mais
ouais,
hors d'eau.
Mais ça ne se mange pas?
Non, ou sauf si vraiment tu les manges, c'est que, que tu aimes les crustacés à la mayonnaise, mais tu n'as pas assez de fric pour bouffer des pinces de crabe. Donc,
bon,
voilà, le
cloport,
c'est quand même pratique. Donc, ce sont des cloports, ils aiment bien les lieux sans lumière, voilà, ils sont à l'humidité. Donc, d'ailleurs, si vous en avez chez vous, dans votre maison, c'est que vous avez une fuite d'eau. Voilà, ça c'est un indicateur de fuite d'eau, c'est le cloporte.
D'accord.
C'est pour ça qu'il est mal aimé, parce que c'est un lieu de milieu humide, de milieu sans lumière. Et puis, tous ces bestioles-là ont, par notre, comment dire, éducation judéo-chrétienne, fait que c'est les animaux du mal et compagnie. Hein,
ah oui?
Ouais, donc...
Ok.
Voilà, comme la chouette pouvait l'être, les animaux de voilà. Donc, voilà, de temps en temps, il faut un peu revoir ses bases. Et donc, il faut savoir que c'est comme sur les crabes, hein, ce sont la femelle qui réserve les œufs. C'est pour ça que des fois, on peut trouver des cloportes avec des œufs. Ce sont les femelles. Donc voilà, comme ça, vous voyez ce que c'est.
Okay.
Donc, il faut savoir que les activités des cloportes, c'est plutôt en période un peu plus chaude, sauf peut-être dans le compostier. On le rencontre souvent dans le compostier, même l'hiver. Il faut savoir que si vous avez beaucoup de cloportes dans votre compostier, c'est un indicateur que votre compostier est rempli de déchets grossiers. Parce que lui, ce qu'il aime bien, avec ses mandibules, il a une forte mandibule qui mange de la lignine. Et ce qui est super intéressant, c'est le caca du cloporte. Alors qu'on va appeler plutôt boulette fécale, hein, parce que ça, c'est quand même bien. D'où l'intérêt des fois de dire... Oh chérie, je suis obligé de te quitter, je vais faire mes petites boulettes fécales. C'est quand même mieux que de dire je vais aller faire caca. Donc ça peut...
voilà. On vient de passer quand même. Alors pour le coup, merci à l'auditeur qui nous a suggéré cet avis pour Eric. Parce qu'on vient de passer d'un débat de religion,
ouais, enfin,
de religion à finalement
faire caca.
Voilà. Donc,
moi je sais
bon,
que c'est mon
le grand écart. Mais ça
c'est ma bestiole préférée parce que je fais très peu d'animation avec les gamins parce que animer des animations avec les gamins c'est un boulot. Je suis pas spécialiste et quand on me demande en urgence parce que voilà il manque quelqu'un, je le fais. Et moi le cloporte ou le ver de terre avec les boulettes fécales, j'ai toujours mon petit succès avec les gamins de maternelle. Et à
bon,
la fin
ouais,
ils sont morts de rire parce que voilà moi je leur dis on fait pas le caca le matin, on fait des boulettes fécales. Et donc ça c'est un truc qui retient. Donc j'estime que si un gamin peut retenir, on doit pouvoir
nous,
le retenir.
Nos auditeurs aussi. On voilà, les salue.
Donc non, les boulettes mais... fécales, ouais, c'est un petit peu comme les turricules, si vous voulez, des vers de terre, hein, mais on ne peut pas comparer, hein, c'est pas la même histoire de transit. Mais ce sont justement, ces boulettes sont très enrichies en azote, c'est ça, et en autres nutriments. Donc c'est ça qui va permettre que quand ça va se décomposer, ça va libérer des nutriments directement assimilables par les plantes.
Donc en gros, la boulette fécale
ouais,
du cloporte est diablement intéressante en,
ah ouais,
en termes
complètement,
de...
Et, ouais, fertilisant.
En termes de fertilisation,
que,
c'est
oui,
ça.
Oui, parce que
okay,
quand on va mettre un déchet dur, une branche, voilà, ou quelque chose qui est un peu ramolleux, ça ne va pas se décomposer tout de suite. Et lui le cloporte, il va favoriser cette décomposition, donc en humus. C'est quand même... voilà, on dit souvent que le cloporte, c'est un des premiers éléments, des premiers maillots de la fertilité des sols, hein, des revenelvants des sols, parce que c'est la branche qui tombe, pour faire simple. C'est la feuille qui tombe, pour faire simple. Donc, on est vraiment dans le renouvellement du sol et c'est lui qui intervient. Voilà.
Okay.
Il n'est pas aussi important que le ver de terre parce qu'il est sur le sol, mais c'est quand même...
Il a clairement son importance.
Voilà. Et son importance aussi, c'est qu'il se fait bouffer. Donc, il se fait manger par tout ce qui est les crapauds, les mille-pattes, les lézards, et voilà, des oiseaux, les araignées. Donc, ça participe grandement à la chaîne alimentaire. Donc, les cloportes, Il faut vraiment l'utiliser. Et c'est facile de faire des nichoirs à cloporte. Pour faire simple, parce que les gens ils aiment bien faire des refuges ou des nichoirs, c'est de mettre des litières de feuilles.
Alors justement, comment accueillir les cloportes au jardin? Puisque tu nous dis que les boulettes fécales des cloportes, c'est le top du top.
Donc
c'est
là, excellent. On met des litières de feuilles un peu partout, hein, notamment au pied des arbustes, parce qu'il n'y a pas qu'au potager que c'est important. Mmh. Et moins on va le gratouiller, moins on va l'aérer, plus on va laisser ces feuilles se décomposer, plus on va se laisser tranquille, plus bah, les cloportes vont bien être en forme. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, des fois, en gratouillant avec, par exemple, une serfouette ou voilà, une petite griffe, vous avez plein de cloportes qui poussent dans tous les sens, hein, parce que vous les avez emmerdées. Donc, n'embêtez pas le cloporte. Il va vite décomposer les déchets, libérer tout ça. Donc, ça peut être aussi un tas de bois, hein, parce que sous le tas de bois, il y a des feuilles. Donc, vraiment, élever le cloporte, c'est quand même plus facile. Hein. C'est beaucoup plus facile qu'élever des gamins, hein. Ça, ouais. Je vous l'assure. L'idéal, c'est de pouvoir mélanger des feuilles avec des brindilles. Donc, ça veut dire du grossier. C'est pas la peine d'avoir un broyage. Je dirais, par exemple, dans la paille, il y en a. Mais le mieux, c'est vraiment les déchets de feuilles, les déchets de branches. C'est-à-dire même sur du déchiquetas, si vous passez à la tondeuse et déchets organiques, bah, ça va servir comme refuge. Voilà.
Autre point, tu as dit le compost, on les trouve surtout, c'est ce qu'on disait au début de cette émission, on les trouve surtout dans le compost.
Quand c'est sec.
Ouais.
Voilà, et quand c'est le fait de mettre des déchets organiques plus humides, hein, bah, ça va permettre de favoriser l'humidité du tas de compost. Donc, après les cloportes, si c'est trop sec, il y a les fourmis.
Oui, donc il vaut mieux les cloportes que les fourmis, c'est
ça ? Disons que s'il y a des fourmis, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais le principe, c'est que le tas de compost est trop sec.
Bon.
Voilà. Donc, alors, le cloporte, il faut savoir qu'il fait de la boulette fécale, mais tous les insectes font de la boulette fécale. Quand vous avez, par exemple, les gendarmes qui vont arriver à un moment, là, ceux qui ont qui ressemblent à des boucliers africains très jolis, très colorés, des fois on dit à quoi ça sert, c'est à part se reproduire et d'être deux par deux, voilà, pour se reproduire. Ah, le but du jeu, c'est que ça mange des trucs, ces trucs font que c'est des boulettes fécales aussi. Donc, nous, il faut qu'on passe dans la litière forestière. Dans la litière forestière, il y a beaucoup de boulettes fécales. Ça peut être aussi les boulettes de fécales des mille pattes. Voilà, donc vive la boulette fécale.
Vive la boulette fécale, on a bien compris. L'idée, et ce qu'on dit par rapport à tous ces auxiliaires, c'est foutez-leur la paix et faites ce qu'il faut pour avoir un endroit où on laisse régulièrement, alors des fois sous les haies, sous les grandes haies, il y a des tas de feuilles qui sont vraiment au-delà de la brindille. Enfin, c'est le côté un peu foufou du jardin que tu aimes bien, c'est-à-dire un endroit où on leur fout la paix.
C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand les feuilles sont trop été traitées au cuivre, il y en a beaucoup moins des cloportes.
Oui, c'est la macrofaune qui est très sensible aussi à la bouillie bordelaise. Et c'est ce qu'on dit régulièrement, mollo sur la bouillie. Hein,
c'est ça.
C'est ce qu'on dit très régulièrement.
Cet après-midi, j'ai parlé d'Andy, je suis allé dans une exploitation où il y a beaucoup d'arbres fruitiers, et notamment les cognassiers, qui est très compliqué à avoir en ce moment. Tous ceux que je rencontre qui ont des cognassiers, ils ont des grosses difficultés parce que les coins pourrissent plus rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les coins, à une époque, on était plutôt au mois d'octobre. Ils étaient un peu verts au mois d'octobre. Puis après, ils mûrissaient tranquillement à des températures qui étaient un peu plus faibles, je dirais. Aujourd'hui, avec l'avancement, avec le changement climatique, les coins arrivent trop tôt. Donc, ils arrivent en période trop chaude. Et donc, ça favorise la maturité des coins et aussi peut-être leur attaque par des champignons. Alors, je dis de temps en temps, je dirais tous les 2-3 ans, ça serait peut-être bon sur certains cognassiers de faire un cuivre léger pour pouvoir justement stopper le développement des maladies.
Bien.
Voilà, je ne suis pas non plus un ayatollah du non-cuivre, hein, mais en agriculture biologique, en viticulture, ça serait très compliqué. Hein.
On est d'accord. Mon cher Eric, ferme ce dossier de la semaine consacrée donc aux cloportes.
Ouais.
Laissons-les vivre. On a bien compris, ce sont des crustacés, on a appris ça, qui font des boulettes fécales. Voilà, s'il y a une phrase à retenir, c'est bien ça.
Oui, donc Eric, ils ont pas 6 pattes, hein, c'est pas comme un insecte.
C'est pas comme un insecte, on est d'accord. Eric, on va passer évidemment à la phrase du jour, dicton de la semaine, et je viens de comprendre, parce que faut le savoir, chers auditeurs, je ne connais pas à l'avance le faux dicton, je ne regarde pas exprès, et j'ai compris toute ton allusion tout à l'heure, Alexandrie, Alexandra, etc.
Ouais.
C'est magnifique.
Donc, le faux dicton, bien sûr, en lien avec les cloportes, c'est qui favorise des cloclo-portes à des Magnolia Forever.
Oh, mais c'est un hommage à Claude, dis donc, François.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà, c'est fait. Je ne savais pas que tu étais fan.
Non, mais bah, parce que c'est le cloporte qui m'a fait penser que... Voilà, voilà, et...
Voilà.
Voilà, oh, c'est... Bon, après, c'est là. Je suis désolé, voilà.
Non,
et,
ne le sois pas.
Je n'ai quand même pas parlé des maisons Claude, hein, donc c'est pour ça que je parle plutôt des cloportes.
On laissera ça pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup de ta participation à ce podcast. Trois infos essentielles, la newsletter tous les vendredis, abonnez-vous, c'est en bas du site, tout en bas, vous descendez en bas de page, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit bien sûr, vous allez retrouver les précieux conseils, les conseils que vous retrouvez également sur le blog monjardinbio.com, vous cliquez dans blog, vous avez tous les conseils, sinon vous tapez dans le moteur de recherche, Instagram, Facebook, Maxime met plein de contenu, des petites vidéos, n'hésitez pas, on va en parler régulièrement aussi de ce blog, hein, puisque on s'enrichit de semaine en semaine avec de nombreux articles. Et puis quatrième information, c'est évidemment le livre « On s'aime fort », on n'a pas encore les chiffres, mais « On s'aime fort », vrai plébiscite en tout cas de nos clients, mais aussi et surtout de vous. Chers auditeurs, merci infiniment pour tout le soutien, tous les mots de félicitations, les mots d'encouragement. Ça fait pile poil un mois qu'il est en vente. Vous le retrouvez à la FNAC, chez Nature et Découverte, sur toutes les librairies, chez Cultura notamment. N'hésitez pas à les acheter, c'est bientôt Noël. Et merci infiniment Eric, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mais auparavant le mot de la fin.
Bah, vive la boulette fécale du matin.
Du cloporte.
Du cloporte, bien sûr.
Bien sûr, on parlait de ça.
Bien sûr.
Faut rester grand public. À la semaine prochaine Eric,
salut. À la semaine prochaine, salut.